Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue sur Radio Immo, Radio Territoria. Nous sommes ravis de vous faire vivre cette troisième édition du salon CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, ici au Carrousel du Louvre. Nous faisons vivre l'événement en recevant des invités régulièrement tout au long de cette journée. Ce sera le cas également aujourd'hui et mercredi. Tempête, canicule, inondations sont désormais de plus en plus fréquents, devenant même presque récurrents. La France n'est pas épargnée et évidemment l'immobilier non plus. Bonjour Virginie Nouzet.
Bonjour.
Vous êtes la directrice études et recherches JL France. Merci d'être présente et de répondre gentiment à mes questions. Alors, conseiller en immobilier d'entreprise, JL accompagne les entreprises et les investisseurs dans leurs problématiques immobilières. En introduction du sommet des investisseurs, tout à l'heure, vous avez présenté votre dernière étude, Risques climatiques, résilience et adaptation, une nouvelle ère pour l'immobilier. Ça, c'est pour le nom de l'étude. C'était quoi les objectifs initiaux ?
Alors en fait, cette étude, elle servit d'introduction en fait à deux tables rondes un petit peu plus larges que simplement le contenu de mon propos. Cette étude, en fait, c'est une étude qui a été conduite d'abord à l'échelle planétaire et que nous avons ensuite déclinée à l'échelle française. Et l'idée, c'était d'identifier finalement quels sont les arguments incontournables aujourd'hui qui font que les investisseurs, les occupants, les pouvoirs publics doivent s'emparer du sujet du changement climatique et mesurer en fait les effets que cela peut avoir sur notre secteur d'activité.
Ok. Selon cette étude, le coût des risques climatiques devrait doubler dans les 10 à 15 années à venir, augmentant de fait les primes d'assurance, menaçant aussi la liquidité des actifs les moins résilients. C'est quoi les principaux facteurs finalement qui contribuent justement à cette large augmentation ?
Alors il y a plusieurs facteurs. Vous avez mentionné très justement les assurances. Les assureurs français ont produit énormément de travaux de recherche ces dernières années pour évaluer l'impact du changement climatique sur le coût des assurances. Et ils ont relevé effectivement des augmentations potentielles absolument importantes, hein, puisque pour certains cas, on parle de plus 80%, plus 100% pour les risques qu'eux-mêmes garantissent. Donc ça, c'est un élément bien évidemment de la hausse, on va dire, liée au changement climatique et qui va impacter les coûts d'occupation et les coûts de détention des immeubles. On a d'autres éléments qui sont liés, par exemple, à la fiscalité et aux coûts énergétiques, puisque l'Europe annonce pour 2027 ou 2028 une taxe carbone sur les bâtiments. Oui. Donc, qui va venir, bien évidemment, alourdir la facture et en particulier pour les actifs les moins performants. On a les coûts énergétiques. On l'a vécu ces deux dernières années avec la crise ukrainienne, avec l'explosion des coûts de l'électricité, notamment en Europe, et donc qui viennent impacter le coût d'occupation et le coût complet pour les utilisateurs. Et un autre élément qui peut venir également jouer un rôle, c'est les financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un fléchage très très fort, notamment en Europe, des financements vers tout ce qui est immobilier vert, notamment avec la taxonomie verte européenne. Et donc demain, il sera probablement plus difficile et plus coûteux de financer des actifs dits bruns, donc non performants. Donc on a un ensemble de choses qui poussent vers une hausse du coût d'occupation, malheureusement, avec une segmentation du marché qui va être de plus en plus importante entre des actifs performants, oui, et le reste du marché.
Évidemment. On parlait à l'instant des assurances, des assureurs. L'étude, elle mentionne la possible exclusion aussi à terme de biens immobiliers les plus risqués, justement, pour ces assureurs. Quelles sont, là aussi, les préconisations de l'étude, en tout cas les mesures concrètes que les propriétaires peuvent prendre pour éviter justement cet état de fait ?
Alors il y a des choses qui peuvent être probablement déployées. On va parler d'adaptation des bâtiments. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte aujourd'hui où des phénomènes qui autrefois étaient de l'ordre de l'aléa exceptionnel
sont récurrents maintenant.
Deviennent de plus en plus réguliers. Et les propriétaires ont un certain levier finalement sur leurs actifs en travaillant la résilience des bâtiments à ces phénomènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un propriétaire peut conduire un plan d'adaptation de son bâtiment qui va consister à identifier les risques qui pèsent sur le bâtiment. Donc un risque de crue, un risque de température, un risque de vent, par exemple. Donc, il va recenser ces risques. Et en France, on peut le faire très facilement grâce aux différentes plateformes qui sont accessibles au public et qui recensent les risques afférents au bâtiment. Ensuite, il va aussi analyser son actif en disant quels sont les éléments propres à mon bien qui peuvent accentuer ce risque. Et à la fin, il peut mettre en place un plan d'adaptation qui va justement permettre de conduire un certain nombre de travaux ou d'adaptation même dans les process de gestion et d'occupation des bâtiments qui vont le rendre beaucoup plus résistant et résilient à ces changements.
Puisqu'on parle des risques, est-ce qu'on peut continuer sur cette question-là ? Au-delà des risques sur les matériaux, sur le matériel, qu'est-ce que ça engendre en fait le changement de climat ?
Alors, au-delà du pur matériel, on a aussi des risques qui sont plus, on va dire, partir de risques sanitaires, et notamment sur tout ce qui est risque lié à la chaleur. Et Paris est particulièrement mal placé. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude du Lancet qui disait que Paris était la ville la plus mortelle, entre guillemets, en cas de hausse des températures. Donc aujourd'hui, bien évidemment, une hausse des températures ne va pas forcément entraîner de dommages au bâtiment. Par contre, ça va avoir des impacts sur la capacité des entreprises à avoir des salariés qui travaillent dans de bonnes conditions, sans risque pour leur santé, et dans un niveau de productivité qui est suffisant pour que ce soit satisfaisant. Et là, le risque qui est associé à ça, c'est de tomber dans la maladaptation, c'est-à-dire tomber dans la surclimatisation pour assurer des conditions de température décente, par exemple. Et donc là, on tombe sur un travers qui est assez classique de pousser la clim à fond, et donc surconsommation, émissions de gaz à effet de serre. Donc on a effectivement ce genre de choses en plus du purement matériel.
Évidemment. L'étude, elle met aussi en avant le concept d'actif échoué. De quoi on parle là concrètement ?
Alors l'actif échoué, ça va être celui qui, malheureusement pour lui, cumule en fait un certain nombre de travers qui vont être par exemple une exposition à des risques qui peut être plus ou moins importante. Donc à des risques donc exogènes, des risques climatiques, on en a parlé, hein, notamment les inondations par exemple, qui vont être localisés dans des marchés qui peuvent être un peu fragiles et sur lesquels en fait les valeurs locatives potentielles ne permettent pas forcément d'aller chercher ou d'aller injecter des capitaux, des capex pour adapter ce bâtiment à la demande de demain. Donc on le sait, on a certains bâtiments qui vont être trop coûteux à adapter, qui n'auront pas de marché en face et qui potentiellement vont devenir des actifs échoués par manque de liquidité à la fois sur le marché locatif mais aussi sur le marché de l'investissement.
Quelles sont les solutions finalement qui sont proposées pour améliorer la performance énergétique des bâtiments qui sont déjà existants ?
Il y a beaucoup de leviers. Hein. Il y a une grosse partie des économies d'énergie qui peuvent être obtenues simplement par du process, par de l'éducation et par déployer des investissements qui sont relativement limités, du type des détecteurs de présence pour les lumières. Donc on rentre dans une pièce, la lumière s'allume. Si personne ne bouge, la lumière s'éteint. Ça évite la négligence d'oublier d'appuyer sur l'interrupteur en sortant. Ça va être des choses qui peuvent être relativement simples et pas extrêmement coûteuses, donc le type d'éclairage, le LED par exemple. Après, on va basculer sur des investissements qui vont être plus lourds. Donc on va tomber sur tout ce qui est équipement, donc les types de chauffage, le type de climatisation, le type d'énergie utilisée. On va parler aussi de tout ce qui est l'isolation des façades, l'isolation des toitures, etc. Et également, ça peut être le recours à des énergies renouvelables sur site ou hors site. Donc on a en fait tout un panel qui permet à des propriétaires d'aller chercher une amélioration de performance avec une montée en puissance finalement des investissements.
Ce qui veut dire aussi qu'avec ces moyens, on peut agir de toute façon.
On peut agir. Après, tout le sujet, ça va être de trouver le bon équilibre financier entre le montant des investissements, la valeur locative de marché, la valeur vénale de l'actif et la liquidité, l'appétit du marché pour le bien.
Alors, en parcourant votre étude, j'ai vu que vous observiez une contradiction entre la demande des entreprises pour des immeubles performants et la réalité en fait du marché. Qu'est-ce qui explique finalement cette inadéquation entre l'offre d'un côté et la demande de l'autre ?
Alors en fait, on est dans un marché qui est encore très très fortement porté par la localisation. On a, et on voit notamment depuis la sortie du Covid, un appétit extrême des entreprises pour Paris. Et donc, on le voit sur les niveaux de vacances, sur les niveaux de valeur qui sont, eux, très élevés. Et cela se fait dans un contexte où l'offre de bâtiments performants dans Paris intramuros, ce n'est pas forcément extrêmement importante, alors même que vous franchissez le périphérique et vous avez des bâtiments qui sont tout à fait performants aux dernières normes. Et donc, on voit cette contradiction encore maintenant où des entreprises vont privilégier encore la localisation par rapport à la performance environnementale. C'est encore quelque chose que l'on constate. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de Paris Intramuros, les actifs les plus performants d'un point de vue environnemental sont aussi ceux qui vont aller chercher les valeurs locatives les plus élevées.
Est-ce que votre étude, elle met en avant les arguments finalement qui poussent les entreprises à privilégier les immeubles performants sur les aspects, on va dire, environnementaux ?
Oui, 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 c'était justement un peu la vocation et le principe, c'était d'aligner les éléments et de mettre en lumière les éléments qui font qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de ne pas bouger sur le sujet. Ouais. Et en mettant en face des éléments très concrets, donc on a parlé des coûts par exemple, on peut parler également de la législation. En Europe, on a une législation qui pousse énormément aussi bien les investisseurs que les entreprises à aller vers la performance environnementale. Et donc, c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui doivent, comment dire, mettre en lumière la nécessité d'aller vers plus de performance et vers des bâtiments plus verts.
Vous parlez aussi dans votre étude de l'impact de l'évolution de la finance verte.
Oui.
Ça aussi, c'est un vrai sujet.
C'est un sujet, tout à fait. En Europe, on a de nouveau un environnement, on va dire, juridique et réglementaire qui est très fort. On a la taxonomie verte européenne. L'Europe est le premier émetteur d'obligations vertes dans le monde. L'Europe vient de lancer une obligation verte alignée sur la taxonomie. On a également des éléments comme la SFDR et le CSRD. Alors, SFDR pour les investisseurs, CSRD pour les entreprises, qui poussent à communiquer sur les stratégies d'investissement et à dire en quoi, moi, en tant qu'investisseur, ma stratégie d'investissement a un impact ou non sur l'environnement au sens large. Donc, on est vraiment dans un contexte qui pousse très, très fort dans cette direction.
Virginie, ce sera ma dernière question. Quelles sont finalement les solutions concrètes proposées par JEL pour aider justement ce secteur de l'immobilier à faire face aux risques climatiques et économiques mentionnés justement au travers de votre étude?
Alors, on a chez JLL, ça fait quelques années qu'on s'est vraiment structuré pour apporter une offre de service à nos clients sur tous ces sujets-là. Donc, on peut aussi bien accompagner des investisseurs sur des stratégies de portefeuille, par exemple. Et donc, on a une équipe dédiée en Europe qui s'occupe de ça. Et on a aussi des équipes d'ingénierie qui sont sur des choses très pragmatiques, très concrètes. On va parler de plan d'adaptation. Et ce que je vous invite à faire, c'est à regarder le replay de notre table ronde d'aujourd'hui. Vous avez mes collègues qui s'expriment sur le sujet et qui vous apporteront une partie des réponses.
Le replay, on le retrouve où ?
Sur le site du CIPCA.
Et ben voilà, tout simplement. Voilà. Donc, pas de souci. Un grand merci.
Merci de votre invitation.
D'avoir répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité. On vous fait suivre cette troisième édition du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, jusqu'à mercredi inclus sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Vous pouvez également retrouver cette émission là aussi en replay, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Salut.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.